Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode en mode vidéo club de Retour à l'écran. On poursuit notre voyage dans le temps béni de la bande magnétique avec un retour sur trois nouveaux films qui ont marqué nos années VHS. Trois films que nous avions découverts non pas en salle donc, mais en pénétrant dans ces antres de la cinéphilie qu'étaient les vidéoclubs.
Dans les vidéoclubs, on faisait des rencontres.
C'était vraiment des lieux d'échange passionnants, amusants aussi, enfin plein de choses. L'excitation de la découverte, c'était un peu des cavernes magiques pour nous, quoi. Puis les VHS, c'était des petits trésors, quoi. Voilà.
C'était vraiment pour jouir de toutes les promesses, parce que on pouvait passer effectivement des heures à contempler chaque jaquette, à regarder les résumés. Moi, ça me faisait tout simplement rêver. Il fallait que la jaquette donne envie, en jette, que le titre soit évocateur. Quand les gamins tombaient sur une cassette qui s'appelait « Le droit de tuer », ou c'était évidemment plus sexy que la dentelière, quoi.
Pour ce nouvel épisode, moi, Max, je retrouve mes deux acolytes de Retour à l'écran. Salut Mick.
Salut, salut.
Et salut Tib.
Eh, hey, salut tout le monde.
On s'était arrêté à la fin du précédent épisode sur Justice Sauvage, l'un des polars musclés de Steven Seagal. On redémarre cette fois avec un film d'une autre star du cinéma d'action.
Alors, puisqu'on est dans les gros bras et justement dans ce genre de film un peu macho et tout, justement, ben moi je vais parler d'un de mes plus gros souvenirs de vidéo. Un film où je me suis levé, parce que mes parents m'ont interdit de le regarder, et donc je me suis levé le matin tôt pour pouvoir le voir. Et je me suis éclaté comme un fou. Et voilà, et je regretterai jamais d'avoir fait ça. Je pense que, bon, maintenant, ils savent, je sais pas s'ils le savent ou pas, mais ça n'a pas plus d'importance de toute façon. Ce film, c'est Emmanuel. Non, je plaisante. Non, je vais parler de Rambo. Voilà, on avait parlé de Steven Seagal, et maintenant on va parler de Sylvester Stallone. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Qu'est-ce qu'on peut dire, ce film vu et revu? Je vais vous faire un petit speech quand même, parce que si jamais il y en a qui l'ont encore pas vu, bah voilà. Donc c'est juste l'histoire d'un vétéran du Vietnam qui revient aux États-Unis et qui cherche un ancien camarade de régiment. Et puis, ben, en fait, malheureusement, il va tomber sur des gens qui vont pas vouloir de lui et vont exprimer un peu leur violence par rapport à ce personnage qui représente une Amérique déchue. Et enfin, bon, voilà, il y a tout un discours, on peut y parler des heures, mais voilà, c'est un très, très, très grand film qui a eu un, qui a cartonné en vidéoclub et qui a vraiment fait de Rambo ce qu'il est. C'est vraiment la vidéo qui a fait Rambo, quoi.
J'aurais pas fait d'ennui à personne s'il n'y avait pas eu ce connard de flic.
Ce que je voulais, c'était manger quelque chose. Ce connard m'a emmerdé, colonel.
Mais t'as dû l'emmerder toi aussi, John.
Eux ont versé le premier sang, pas moi.
Écoute, Johnny, laisse-moi venir te chercher pour te sortir de là.
Donc c'est un film de Ted Kotcheff qui n'a pas fait grand chose d'autre, hein, à part ce film.
Ah si si, il a fait beaucoup de choses.
Retour à vers l'enfer, c'est ça.
Ouais, bah c'est tout en fait, c'est le seul. Après le reste, bof quoi.
Ça a été un réalisateur de télévision aussi. Il a fait beaucoup d'épisodes de Law and Order. C'est quelqu'un qui a quand même une carrière.
Oui, non, je dis pas qu'il a pas de carrière, mais au cinéma, c'est pas le.
Il a tourné une vingtaine de films.
Non, mais il a fait quelques films, mais après, bon.
Parmi les plus connus, il y a La Grande Cuisine, qui est plutôt un bon film qu'il a fait en 78. Mais c'est vrai que les deux plus connus, et surtout le plus connu, bien sûr, c'est Rambo. Mais Retour vers l'enfer aussi, c'est un film qui a eu beaucoup de succès, comme Rambo d'ailleurs, en vidéoclub, et qui est un excellent film avec Gene Hackman qui monte une espèce d'équipe pour aller chercher son fils qui est prisonnier au Vietnam.
Qui préfigure d'ailleurs Rambo 2 quelque part.
Exactement.
7 soldats qui ont fait la guerre du Vietnam. Ils s'y sont battus, et ils en sont revenus. Aujourd'hui, ils y retournent pour récupérer leurs frères d'armes qui, depuis 10 ans, y sont encore prisonniers.
Viens, mon bonhomme, on rentre chez nous.
Paramount présente Retour vers l'enfer.
Allez, on revient sur Rambo.
Donc un film qui a un petit budget de 15 millions, hein, c'est pas beaucoup. Hein, voilà. Bon, il y a plein de choses à dire. Hein. J'aime bien le casting originel, Dustin Hoffman.
Et ouais, c'est quand même difficile d'imaginer Dustin Hoffman en Rambo quand même. Hein. Les producteurs, ils avaient passé en revue toutes les stars hollywoodiennes de l'époque, mais ils s'étaient focalisés sur Dustin Hoffman au départ.
Ouais, non, et puis bon, ouais, bon... Bon, non, mais j'aime bien, hein, mais c'est particulier. Al Pacino, Steve McQueen, Clint Eastwood, Nick Nolte, Chris Christopherson, Jeff Bridges, Robert De Niro, Michael Douglas et Terence Hill. Un truc de fou.
Eh oui, ils avaient envisagé Terence Hill, ouais.
Waouh, ils sont partis sur tous les trucs, quoi.
Eh ouais.
Et pour Trotman aussi.
Trotman, c'était Kurt Douglas à la base.
Kurt Douglas, ouais.
Qui était choisi, mais Kurt Douglas, en fait, il voulait changer pas mal de choses sur le scénar et sur son personnage. Et mais c'est Stallone qui était déjà choisi, qui a pas voulu que Kurt Douglas change des choses. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont rabattus. D'abord, ils se sont rabattus sur Lee Marvin. Ensuite sur Gene Hackman et finalement ils ont pris Richard Crenna.
Moi j'ai des potes qui trouvent que Richard Crenna il est un peu fade et c'est vrai que quand tu imagines Kirk Douglas tu dis ah ouais, quand même le mec buriné et tout ça. Moi je me suis habitué à Richard Crenna donc j'aime bien, je trouve qu'il a une humanité et tout ça. Après c'est vrai que quand tu cites des noms comme ça, Lee Marvin et tout, tu dis ouais, c'est vrai que ces gars-là, ils transportent aussi autre chose, quoi.
Ouais, peut-être, mais bon. Ouais, bah oui.
Peut-être que Stallone, qui était vraiment au top de sa carrière à ce moment-là, et un mec comme Kurt Douglas, il avait peur que ça lui fasse de l'ombre, et donc Richard Crenna, qui était un acteur connu, mais plutôt de seconde zone, c'est un peu dur, hein, mais en tout cas, qui était un peu un second couteau par rapport à des Douglas ou des Marvin, ou des Hackman, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Enfin, c'était un prétexte, en fait, pour ne pas les avoir. Hein. Moi, je l'aime bien, et c'est pareil comme toi, Mick, je me suis habitué, et pour moi, Trotman, ça reste Crenna, dans Rambo 2, et même dans Hot Shot, finalement, puisqu'il quelque part, dans Hot Shot 2, pardon, il reprend plus ou moins ce personnage-là. mais...
Le grand écart.
Je pense que c'est plus encore un des nombreux caprices de Stallone de l'époque, où on peut les compter, hein, les caprices de Stallone, et je pense que ça en fait partie, quoi.
Qu'est-ce qui a pris à Dieu de faire un type comme Rambo ?
Dieu n'a pas fait Rambo. C'est moi qui l'ai fait.
Et qui êtes-vous, vous ?
Sam Trotman. Colonel Samuel Trotman.
Ben, nous sommes très occupés ce matin, colonel. Que puis-je faire pour vous ?
Je viens chercher mon poulain.
Votre poulain ?
J'ai recruté cet homme, entraîné cet homme, et commandé cet homme au Vietnam pendant 3 ans. Je crois que ça en fait mon poulain.
Je me demande pourquoi le Pentagone enverrait un véritable colonel d'actifs pour régler ça.
L'armée a estimé que je pouvais vous aider.
Bon, alors là, je vois pas comment. Rambo est un civil maintenant, c'est mon problème.
Je ne crois pas que vous me compreniez. Je ne suis pas venu sauver Rambo de la police. Je suis venu vous sauver de Rambo.
Ça m'avait marqué, quoi, cette histoire de mec qu'on torture, qu'on comme ça. C'est tellement injuste qu'il lui arrive, et puis tu comprends que pas tout ce qu'il a vécu et qu'il arrive là, on lui en fait, putain, ça m'avait traumatisé, hein, vraiment, hein, et en plus il est cool quand même, parce que il essaye de même pas les tuer et tout jusqu'au bout. Ouais, non, c'était vraiment, alors ouais, film qui s'est fait un peu casser en deux quand il est sorti. Bon, c'est un peu normal, hein, en général, hein, on lui a dit que le scénar valait rien, que
ouais,
mais bon, voilà, maintenant ça considéré comme étant un des meilleurs films de 82. Donc bon, bah écoute,
c'est un des plus grands films du début des années 80. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que Rambo, c'est d'abord l'adaptation d'un bouquin qui avait été créé en 72 par David Morrell.
David Morrell, oui, tout à fait.
David Morrell, c'était un ancien professeur qui, en fait, quand il était professeur, il a été inspiré par le parcours de ses élèves, dont certains avaient fait le Vietnam et qui étaient revenus du Vietnam. Et donc, c'est une critique de...
Du retour, enfin, de l'accueil désastreux des vétérans.
Des vétérans américains qui avaient l'image de la défaite, en fait, pour les États-Unis. Et donc, on les rejetait en bloc alors qu'ils avaient donné leur vie pour leur pays, quoi. Donc
C'était la honte, hein. C'était la honte ultime, hein. Ouais.
J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde. J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils pour me faire des proches, hein? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Ils nous jugent, ils savent pas de quoi ils parlent.
C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé, maintenant.
Pour vous ! Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, y a plus rien.
Alors, est-ce que vous savez comment David Morrell, donc l'auteur, avait trouvé le nom de Rambo ?
Eh ben oui.
Si vous me parlez du poète, je fais pipi sur la moquette. Hein,
mais... Eh ben, tu peux y aller, vas-y. Eh ben,
tu vas faire pipi sur ta moquette.
Mais non, c'est vrai, c'est sérieux.
Eh ouais, parce que comme il était prof, en fait, c'était les élèves qui disaient Rambo, 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 ça le faisait marrer.
Ça vient de là.
Ah ouais, ok, d'accord, bah tu vois, on a protégé.
Eh oui, oui, alors moi aussi, je vais parler quand même un peu de ce couteau mythique, parce que ce couteau que beaucoup on a acheté, alors moi je l'ai pas eu, mais j'ai un copain qui l'avait acheté, alors on a joué avec ça pendant des heures, on partait dans la forêt avec ce couteau qui a cassé, qui était en place.
Tu peux le décrire?
Ah, je peux le décrire, bien sûr. Bah, c'était la version pour enfants, hein. C'était pas le modèle Rambo, il était un peu plus petit, mais il y avait surtout une poignée qui était creuse avec des petits outils à l'intérieur. C'était un couteau qui avait été inspiré par des couteaux de l'armée de 40. Et le couteau, en fait, a été créé pour le film, parce qu'il n'existait pas vraiment. Et le couteau, d'ailleurs, change à chaque épisode.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il est plus stylisé dans le 2, déjà.
Exactement, voilà.
Alors, même si c'est connu par beaucoup, il faut quand même parler de la scène finale du film. Il y a eu deux versions qui ont été tournées. L'une qu'on connaît, où Stallone se rend et il sort, et ça se termine là-dessus. Et l'autre où il se suicide devant Trotman. Et la fin qui avait été retenue en premier, c'est celle où il se suicide. La production fait des projections test et le public gueule, ne comprend pas pourquoi on fait mourir le personnage de Stallone.
Ouais, bah oui.
Le public s'est attaché à ce personnage-là et ne comprend pas pourquoi il meurt et pourquoi il se suicide surtout.
Ah bah tu m'étonnes que c'est attachant.
Et donc la production a décidé de changer la fin et de prendre la deuxième fin qui avait été tournée, heureusement qui avait été tournée, à la demande de Stallone d'ailleurs, même si Stallone préférait la fin où il se suicide et qu'il avait imposé cette fin-là, mais c'est le choix du public qui a fait qu'il a dû changer d'avis et ils ont finalement choisi cette fin que l'on connaît tous.
Il y a près de 200 hommes dehors avec des M16. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour déclencher ta petite guerre. Tu as fait assez de dégâts. Cette mission est terminée, Rambo, tu as compris? Cette mission est terminée. C'est terminé, Johnny. C'est terminé!
Rien n'est terminé! Rien! Tout continue à cause de vous! C'était pas ma guerre!
C'est pas ma guerre!
Moi, je trouve vraiment que c'est pareil, c'est un chef-d'œuvre et tout ça. Je me souviens, la première fois que j'ai vu l'affiche, c'était un 4x3 sur le chemin, sur la route, où on allait avec mes parents pour aller faire les courses. Un soir, comme ça, on est sous la pluie, et je vois l'affiche, comme ça, et la tagline, c'est « Cette fois, il se bat pour sauver sa vie ». Et je me demandais de quoi il parlait. Est-ce qu'il parlait de Rocky ? Où il parlait du personnage. Il y avait un truc qui était pas clair dans mon esprit. Et quand j'ai vu le film en VHS chez Hollywood Vidéo, c'est grosse découverte. Gros kiff aussi, pareil. Je trouve que le film vraiment est incroyable. Ah là là. Il vit super bien. Les séquences d'action sont nerveuses. Je crois qu'il y a eu des problèmes avec les cascadeurs, hein. Il y a eu des blessés.
Stallone lui-même qui s'est cassé deux côtes ou plusieurs côtes quand il tombe dans les arbres, justement.
Dans les arbres, ouais.
Et d'ailleurs en fait, c'est la scène était bonne, du coup, ils ont gardé, c'est la scène où il se fait mal, c'est la scène qui est gardée pour le montage final.
En fait, il y a exactement la même puissance d'empathie pour le personnage de Rocky que pour Rambo. Ce sont deux personnages très différents. Mais le côté gros tas de muscles, un peu tristoun, etc., on a envie presque de lui faire un câlin. Et encore plus dans Rambo, parce qu'il est rejeté de toutes parts, il est un peu taciturne, etc. Il y a un truc qui est vraiment hyper fort. Et je comprends pourquoi le public a rejeté l'idée de ce suicide, parce que finalement, dans la trajectoire du personnage, c'est hyper frustrant s'il se suicide. Il y a une logique peut-être dans le roman, je crois que c'est dans le roman, il meurt. Hein.
Ouais, il est vachement philosophe, il a vachement de recul sur tout, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que dans la logique, non, c'est pas... Enfin bon, maintenant c'est comme ça, donc.
Après, il faut rappeler que dans le bouquin, le personnage est beaucoup plus dur, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fou, il est fou.
Oui.
C'est-à-dire
c'est
qu'il
ça.
Est, dès qu'il a les brimades, en fait, il devient complètement taré. Il est beaucoup moins précautionneux finalement, si je peux m'exprimer ainsi.
Oui, bah oui, là.
Ouais.
Quand il s'attaque aux flics dans le bouquin, il fait pas de quartier, il tue tout le monde. Il est complètement taré. Et ce qui faisait que le personnage finalement était, en tout cas, on aurait eu moins d'empathie pour ce personnage s'il avait gardé la caractérisation de ce personnage tel qu'il est dans le bouquin.
Et toi, Max, tu l'avais vu comment, toi, alors tu t'en rappelles?
Ah, moi, je me souviens très bien. Je l'avais découvert aussi en vidéo. Je l'avais loué au Vidéo Club, mais pas en VHS, en V2000. Parce qu'à l'époque, j'avais un magnétoscope V2000. Donc, V2000, on en a parlé dans un précédent épisode sur des Vidéo Club. Mais pour rappel, c'était un format donc différent de la VHS. C'était un format double face, enfin de cassette double face. On pouvait enregistrer deux films, ou quatre films même. Sur une seule cassette, quand on avait des cassettes de 2x4 heures, donc j'habitais Grenoble à l'époque, comme vous d'ailleurs, c'était le seul vidéoclub V2000 à Grenoble, et le film était tellement loué, en fait, au bout d'un moment, pour répondre à la demande des clients comme moi, ils avaient fait des copies, donc c'était totalement illégal, ah ouais. Mais ils avaient fait des copies, et moi j'avais loué une des copies pour pouvoir le voir, en fait. Donc j'ai payé à l'époque pour voir une copie de la cassette Hollywood Vidéo qui m'avait filé avec une jaquette noire et blanc, enfin une photocopie noire et blanc, et donc j'ai découvert comme ça, dans une copie dégueulasse d'ailleurs, hein, mais je voulais tellement le voir.
Ah ouais, des photocopies noir et blanc, j'en ai loué quelques-uns.
C'était totalement illégal, mais honnêtement, je voulais tellement le voir que voilà. Et puis en plus, ces copies-là, il est planqué, bien sûr, parce que c'était illégal, et qu'à un moment, je me souviens très bien, c'était une dame qui tenait ce vidéoclub, elle est allée dans l'arrière-boutique, elle m'a sorti la cassette, m'a dit tiens, j'ai une copie, machin et tout, et donc j'ai pu voir le film comme ça, et pareil que vous, hein, moi ça a été un choc ce film, pour plein de raisons, même si à l'époque j'ai pas retenu toute la dimension politique en fait du film.
Ah mais moi non plus.
Bien sûr.
À l'époque je l'ai vu comme un film d'action extrêmement efficace, extrêmement prenant.
Et ben voilà, comme dans genre Steven Seagal et compagnie, mais voilà.
C'est... Ouais.
Bah, un peu plus loin quand même.
Non, j'avais eu beaucoup d'empathie pour le personnage. Enfin bon, déjà j'adorais Stallone parce que j'avais vu quelques Rocky déjà à l'époque et comme beaucoup hein, d'ailleurs, on était très fans du bonhomme. En tout cas, beaucoup de garçons étaient fans du bonhomme et ce film-là, ouais, ça a été une claque à l'époque, et forcément quand le 2 est sorti, on est beaucoup à s'être rué dessus. Moi je l'ai vu au cinéma, le 2. Après, le 2 change complètement le personnage, enfin la caractéristique du personnage, et en fait un film d'action pro-réganien typique des années 80. Mais bon, après le film manque pas de qualité, le 2 notamment dans ses scènes d'action.
Et le scénar
de James Cameron.
Moi le 2 j'ai du mal, hein. J'ai vraiment du 2 et 3 j'ai du mal, hein.
Ah non, moi je suis j'adore le 3, j'ai plus de mal, mais le 2 je suis à fond.
Trahi par les siens et abandonné derrière les lignes ennemies. C'est vous qui avez commis une erreur. Et vous pouvez me dire laquelle ? Rambo. Et maintenant, il veut s'en sortir. Par n'importe quel moyen. Aucun homme, aucune loi, aucune guerre ne peut l'arrêter. Sylvester Stallone est de retour dans le rôle de Rambo. Rambo 2, la mission.
Dans le 3, ils ont ramené de l'humour. Alors, sur le coup, tu peux te dire, bon, ouais, mais j'aime bien les notes d'humour qu'il y a, même si le film a été fait, ça a été une production hyper bordélique avec un changement de réalisateur. C'était le réalisateur d'Highlander qui l'a commencé, Russell Mulcahy, il a été terminé par un autre réalisateur, Peter MacDonald. Ça fait un film un peu bancal, un peu machin, mais moi j'ai quand même une petite affection pour le troisième épisode.
Ah, j'ai un bon souvenir, hein. Je garde un bon souvenir. Je l'avais vu parce que je l'avais acheté dans un magazine, il y avait le film avec le magazine, je me rappelle, et je l'avais vu comme ça, le 3. Bah comme le 2 aussi, je l'avais acheté comme ça, en magazine.
Moi, je l'avais acheté dans un supermarché, le 2. Et pour compléter, parce qu'on a parlé des trois premiers, moi, j'aime beaucoup le 4.
Je suis fan.
Et je déteste le 5. Et, puis,
et
voilà.
Pareil, et c'est même pas la peine d'en parler, du 4. C'est une grosse merde. Le 5 est une grosse merde.
Bah ouais, moi le deuxième, moi j'ai souvenir du gros tintamarre autour de la sortie, parce que ça avait été un gros succès, donc ça avait été lancé en grande pompe en VHS. Et j'avais la cassette aussi. Mes parents me l'avaient ramené aussi du supermarché. Ils avaient dû aller à un Carrefour ou un truc comme ça. Ils me l'avaient ramené. Je me souviens de la jaquette avec l'ancien logo Delta Vidéo avec les trois traits.
Les trois bandes, ouais.
Rambo 3. Je me souviens l'avoir vu avec mon père au cinéma. Et on avait vraiment halluciné parce que la salle était vraiment chargée en surround, le son là avec les infrabasses qui font secouer les sièges. Et il y a un moment, il y a un hélicoptère comme ça qui sort de derrière le paysage de l'Afghanistan. Et on entend d'abord le vrombissement de l'hélicoptère. On était là, waouh, putain, le son de cette salle est incroyable. Et voilà, mais pour reboucler sur le premier, moi je trouve que le premier est génial en termes d'action. Mais le film devient exceptionnel avec la séquence de dialogue final, enfin de monologue final de Stallone, qui est déchirant. Puis quand il explique voilà, qu'il raconte que son copain a explosé, qu'il a des morceaux de son pote sur lui, etc. Enfin, tout ce qu'il a vécu, c'est hyper déchirant. On oublie, on a la figure de... Ben justement, la figure de Stallone, Rambo 2, etc. Mais on oublie que le Stallone des années 70, et je pense que Rambo 1 est encore à la queue de la comète des années 70, il n'est pas tout à fait un film des années 80, ben... On oublie que ça a été un mec comme ça, qu'on comparait à De Niro ou des gens comme ça. Hein. Et voilà, il y a des moments hyper forts, hyper touchants. Ça fait dépasser le film du simple action movie lambda qu'on a oublié depuis. Quoi. Voilà, c'est ça qui fait le sel pour moi de ce film-là. Les autres scènes d'action, évidemment. Mais tout ce final est génial. Quoi.
Réveil, c'est plus aussi. Je parle plus à personne. Des fois, toute une journée. Toute une semaine. J'arrête de ma tête.
Après, je vais parler encore d'un petit truc. C'est cette M60, cette mitrailleuse qu'il a, qui vole à la fin et qui, à l'époque, bah, c'était une des premières fois qu'on la voyait vraiment en premier plan, je pense, et qu'on va après revoir. Mais ça a été, je pense que ça aussi, c'est devenu cette affiche là avec les balles et le. Qu'on peut retrouver après dans quelques films, notamment Les Morphalous, un peu même genre avec la. C'est assez.
Voilà, des films italiens, les Rambo-like comme Rush.
Ouais, Rush.
Pour ceux qui traînaient dans les vidéoclubs aussi à l'époque et qui louaient comme moi les nanars italiens qui étaient des Rambo-like, enfin des copies de Rambo, y avait Rush, il y en avait d'autres comme ça, ou avec des pseudo-Stallone transalpins, et ils recopiaient la même affiche avec la même mitraillette, voilà, parce que c'était iconique, en fait. Cette affiche est devenue presque toujours d'ailleurs iconique.
Ah ouais.
Donc ouais, il faut dire aux gens, si vous l'avez jamais vu, Rambo, ce qui serait un peu probable, tout ça, mais voyez, voilà, oubliez peut-être la dimension Rambo 2 et tout ça. Regardez le premier, c'est pas du tout l'image qu'on a de Rambo 2, un peu bêta, etc. Vraiment, le film est hyper intéressant à la fois de l'action, mais plus profond que les suites, quoi. Vraiment, c'est un vrai drame.
Non, c'est hein. Un drame, c'est un vrai drame.
Tout à fait, tout à fait. Et avec aussi un Brian Dennehy qui joue le commissaire, enfin qui joue le shérif, qui est super, tout en nuances.
Petit rôle de David Caruso aussi.
Ouais, l'un de ses premiers rôles.
Non, puis il y a des trucs de dingue, donc regardez-le quoi.
À voir, à revoir.
Et ben puisqu'on en est dans les gros bras encore, hein, donc là moi je parlais, mais pas tant de gros bras que ça malgré tout, mais on est quand même dans de l'actionneur. On va parler encore une nouvelle fois de Clint Eastwood, dont on adore ici la carrière, le personnage, l'icône, hein, voilà le mec increvable. Et je voulais vous parler d'un film dont on a un peu oublié l'existence aujourd'hui, mais pourtant qui a été très important, qui a été un hit de vidéoclub et qui a été aussi un hit au cinéma, qui s'appelle « Doux dur et dingue ». En anglais, « Every Which Way But Loose » de James Fargo, qui est sorti en France en avril 79. Et donc, c'est avec Clint Eastwood dans le rôle principal, avec Sandra Locke, qui était sa femme à l'époque, hein, avec qui il a tourné 6 films. On a aussi, dans les autres rôles, on a aussi Geoffrey Lewis, qui est le papa de Juliette Lewis, que nous, on aime beaucoup.
Enfin, vous, toi?
Ouais, surtout moi. On a aussi Ruth Gordon, qui joue le rôle de Mémé, et c'est une actrice inoubliable qui a joué dans le film Harold et Maude. Oh,
j'adore ce film!
Ah, il est super beau, il est super beau. Donc, on attend toujours un vrai Blu-ray, d'ailleurs. Et puis, on a aussi Clyde, l'orang-outan du film. Et c'est génial, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est d'où dur et dingue? Moi, je le mets un peu dans la même collection que les films de Terence Hill et Bud Spencer, finalement. Il y a un peu cette dimension-là de comédie légère avec pas mal de gros mots, des choses comme ça. Alors bon, rapidement, le synopsis. Alors, j'ai pas écrit de synopsis pour le film. J'ai fait un simple copier-coller, j'avoue. Mais c'est globalement, Clint Eastwood joue Phil Bedeau, qui a une passion et un don pour les bagarres. Et ça lui permet de gagner sa vie. Il participe à des combats de boxe à point nu. Et puis, il est accompagné donc de Clyde, un orang-outan, et de son ami Orville, donc Geoffrey Lewis. Il tombe amoureux d'une chanteuse, Lynn, et il est poursuivi par un gang de motards, les Veuves Noires, et par deux policiers.
Philo Bedeau, je crois que t'es fait aux pattes.
Je te connais?
Non, mais ça va pas tarder.
Voilà, et donc, bon, bah, c'est tout ce petit monde. On est un peu dans le film légèrement road movie, très country. Hein, c'est une sorte de film un peu à la Cours après moi, shérif.
Tout à fait.
Ouais, parce que d'ailleurs, le film a été écrit à la base pour Burt Reynolds, en fait. Et puis finalement, je ne sais pas pour quelle raison, et ils l'ont proposé à Clint Eastwood. Et Clint Eastwood était hyper emballé, mais en même temps, il avait un peu peur de faire une vraie comédie, parce qu'il a déjà fait des trucs un peu légers ou tout ça, mais là, une vraie comédie presque poète-poète, entre guillemets, il ne l'avait jamais fait. Donc, il a été voir son pote Burt Reynolds, avec qui il tournera bien plus tard Haut les flingues, pour lui donner des conseils sur comment se positionner, etc. Et voilà, et en fait, ça cartonne, il y a un truc hyper marrant, il y a cette dimension ironique de Clint qu'on connaît aujourd'hui et qui vient de ce film-là, en fait. L'ironie était moins forte chez Dirty Harry ou des trucs comme ça, il y en avait, hein, bien sûr, mais le vraiment second degré presque comique, cette fibre-là éclate vraiment dans D'où dur et dingue. Apparemment, si on tient compte de l'inflation, c'est son plus gros succès en salle à Clint, ce film-là. Donc ça a donné une suite qui s'appelle « Ça va cogner » en français, qui est sorti en 1980, qui est réalisé par le cascadeur Buddy Van Horn, qui réalisera aussi « La dernière cible », etc. par la suite. En fait, voilà, le film, c'est un peu comme « Cours après moi, shérif », dont Max, vous avez déjà fait un express. C'est hyper marrant, ça se regarde en famille, moi je l'ai découvert comme ça, en famille, chez ma grand-mère, avec mes cousins, etc. On se l'est mis en boucle, c'était hyper drôle. Après, quand le 2 est sorti, on se les envoyait aussi le week-end d'après, parce que le singe nous fait marrer, parce qu'il y a des gros mots, parce que les motards sont improbables, il y a des dialogues super drôles, avec un mec qui, à un moment, qui arrive, qui montre le tatouage de la Veuve Noire à Clint Eastwood, qui joue les bêtas, qui dit, l'autre, tu dis, c'est ce que c'est ça, et puis Clint Eastwood, il dit,
un tatouage? Tu vois ça? Deux tatouages. Ce gars-là, il me les casse.
Laisse foutre.
C'est pas une façon de dire merci quand on vient de te payer une bière. Demande l'addition. Tiens, je vais aller les remercier dehors comme ils le méritent.
C'est ce genre de van-là qu'on retrouverait dans un Terence Hill Bud Spencer que je trouve très bon enfant. Et c'est top, quoi. Et donc, Ruth Gordon, là, qui joue dans Harold et Maude, elle joue le rôle d'une mémé avec son fusil, là, c'est improbable. C'est vraiment hyper attachant, tous les personnages sont attachants, c'est très bien écrit.
Dites, la vieille, où est Philo Bedeau?
J'en sais rien et ça m'est égal. Ôtez-vous de ma véranda avec cet engin, ici c'est une propriété privée.
Vous n'êtes pas très hospitalière.
Hospitalité, mon cul. Les garçons n'auraient pas dû s'en aller en laissant une femme de mon âge toute seule, sans défense. C'est impensable. Et c'est dégueulasse!
quelque part, le film disparaît un peu des radars. C'est-à-dire que maintenant, comme Clint Eastwood est canonisé, grande ponte hollywoodienne, ce qu'il mérite totalement, on oublie aussi des films des films comme ça, un peu plus mineurs.
Légers.
Ouais, plus légers, etc. Alors qu'en fait, ça a une importance dans sa carrière, et surtout, c'est hyper attachant, quoi. Vous l'avez vu, vous ?
Moi, j'ai pas loué, j'avais pas loué, mais j'ai vu, en fait, je m'en rappelle pas, parce que c'est le genre de film qui fait partie de ma vie, mais je sais pas comment il est rentré dedans, je sais pas, j'ai dû voir ça à la télé un soir... Et puis après, j'ai dû l'enregistrer, revoir ça régulièrement. Ouais, voilà, mais ouais, moi j'adore. Hein. Voilà, comme tu disais, comme on en a parlé, c'est ce genre de Terence Hill et Bud Spencer que j'adore. C'est Clint comme il est devenu. Et voilà, avec un acolyte assez étonnant. Voilà, bah non, j'adore.
Signalisation à droite, Clyde.
J'adore.
Signal à droite, Clyde.
Entre ça, les doigts d'honneur du singe, tout ça, enfin, c'est improbable.
Ah ouais, non, c'est trop bon.
Voilà, t'as très bien résumé ce que c'est. C'est quand même un film super potache.
Oh.
Pour le coup, je l'ai revu il y a pas très longtemps. Alors, j'avais bien kiffé quand j'étais gamin, hein, comme vous. Ça m'a bien fait marrer, le singe, les gags avec le singe. D'ailleurs, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et là, en le revoyant, je dois avouer que je me suis un peu fait chier. Alors, peut-être parce que j'ai plus l'âge. Et pourtant, j'adore toujours les films avec Terence Hill et Bud Spencer, hein, j'en parlerai plus tard, qui sont aussi hyper potaches. Mais j'ai trouvé ça hyper long, en fait. Il y a des baisses de rythme, il y a des creux de rythme pendant le film. Bon, après, voilà, il y a des trucs, encore une fois, sympas. Comme je disais, le singe, les bikers qui sont juste une belle bande de bras cassés, toutes les scènes de bagarre. Mais j'ai pas retrouvé le plaisir que j'avais eu quand je l'ai vu gamin, en fait. Alors justement, j'avais vu ce film, alors pas en vidéo, parce que je l'avais pas loué, mais je l'ai vu sur France 3, enfin sur FR 3 à l'époque, puisque c'est l'ancêtre de France 3, et je l'avais découvert après Ça va cogner, donc la suite, que j'avais pour le coup loué en vidéoclub, et à l'époque, bah voilà, c'est ce que je disais, un gamin, ça me faisait marrer toutes ces potacheries, mais aujourd'hui un peu moins. Après, je trouve qu'il a vraiment sa place dans ses épisodes sur les vidéoclubs, parce que...
Oui, mais c'est un film de vidéoclub, ouais.
Pour le coup, ça, c'était un vrai film de vidéoclub. C'est le genre de film qu'on louait le samedi soir, les comédies potaches un peu pourries, ou pas, d'ailleurs, et notamment celle de Terence Hill et Bud Spencer aussi, on en a parlé, on va en reparler après, mais c'est le genre de film qu'on aimait louer aussi, en plus des films d'horreur, en plus des films d'action, enfin des polars, des machins, qu'on aimait louer pour se vider le cerveau le samedi soir, quoi. Donc ouais, franchement, c'est un vrai film de... Pour moi, c'est un vrai film de vidéoclub.
Mais en fait, pour revenir, toi, tu as vu le premier, le deuxième d'abord, mais en fait, c'est des films, comme il n'y a pas marqué 1 et 2,
oui.
En fait, il n'y a pas vraiment de Ça va cogner, d'où dur et dingue. Bon, tu peux les mettre dans les deux sens, il n'y a pas vraiment de...
Ouais, c'est pas très grave.
Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'incidence sur ce qui se passe dans un, sur le deuxième, et vise...
Un tout petit peu, donc, mais ça reste très léger. Après, Ça va cogner est un peu moins bien que d'où dur et dingue, quand même. Le premier est mieux.
Il y a encore moins, en fait, il y a encore moins d'histoire. Enfin, il y a peu d'histoire dans le premier, mais encore moins dans le second. C'est vraiment, ça se résume vraiment à l'affrontement entre les bikers et Eastwood.
J'ai oublié de dire, mais voilà, James Fargo, qui est le réalisateur, en fait, c'est un ancien assistant réal. Il a bossé sur les premiers films de Spielberg, Duel, Sugarland Express, les premiers films aussi réalisés par Eastwood lui-même. Et puis, par la suite, il a réalisé L'Inspecteur ne renonce jamais, hein, c'est Dirty Harry 3. Et puis, son dernier film cinéma, c'est L'Exécuteur de Hong Kong, avec Chuck Norris en 82. Ça, c'est aussi un autre hit vidéoclub. Hein. Puis après, il est parti à la télé, et il a fait plein d'autres séries hyper mythiques pour notre génération, hein, l'Agence Touriste, Rick Hunter, et aussi Beverly Hills 90-210, que moi j'aimais beaucoup.
Eh ben, moi, je crois que, Max, tu as ton petit fil rouge transition déjà tout trouvé.
Ah, mais complètement, parce que vous avez parlé longuement de Terence Hill et Bud Spencer.
Et on va en parler longtemps encore.
Parce que, encore une fois, dans les comédies qu'on aimait louer un samedi soir en famille, il y avait toujours régulièrement un Terence Hill et Bud Spencer. Et celui dont je vais vous parler, c'est peut-être mon préféré.
Ouais.
C'est Deux Super Flics, qui est sorti en 77. C'est le premier film qu'ils ont tourné à Miami, parce qu'après ils se sont installés à Miami et ils ont beaucoup tourné là-bas, et c'est le premier donc qu'ils ont tourné dans cette ville américaine. Et c'est la 11e collaboration du duo, c'était le 11e film qu'ils faisaient ensemble. Alors de Superflix, ça parle de quoi?
Pas évident, hein.
Si, si, il y a une histoire.
Oui, non, c'est vrai, en plus, c'est vrai. Non, c'est vrai.
Pour la résumer assez rapide, donc c'est deux mecs fauchés, un peu paumés, qui cherchent du boulot sur les docks de Miami. Et quand ils arrivent là-bas, ils se retrouvent au milieu d'une bagarre et ils se font virer des docks. Donc ils sont totalement fauchés.
Dès qu'on en parle, on est mort de rire. Je sais pas si tu vois.
C'est un truc de fou. On est déjà en train de se refaire les dialogues.
Et puis ils se disent bon, on est fauchés, on est tous les deux, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, on va faire un hold-up. Sauf que quand ils débarquent pour ce qu'ils pensaient être l'arrière-boutique d'un supermarché pour piquer la caisse, en fait, ils tombent sur un commissariat. À ce moment-là, la police de Miami fait une campagne de recrutement pour avoir de nouveaux policiers. Et donc, au lieu d'être pris pour des délinquants, ils sont pris pour des gens qui viennent se présenter pour devenir de nouveaux policiers.
J'ai la criminalité dans le sang. On fait pas mouche à tous les coups, hein. On se fera foutre à la porte après les cours de préparation et on touchera 150 jours de paye.
Ça, c'est à voir.
Et à partir de là, ça va être un festival de gags. Ils vont se retrouver confrontés à un groupe de pseudo-punk avec à leur tête un mec qui se prend pour un indien.
Géronimo!
Merci.
Pas moi!
On a donc les traditionnelles bagarres qu'on voit dans tous les films du duo, et notamment la bagarre finale qui se déroule dans un bowling qui dure à peu près 10 minutes. Alors bon, moi c'est un film que j'aime beaucoup, c'est une vraie madeleine parce que voilà, c'est un film que j'ai vu enfant, que j'avais loué, qu'ensuite j'ai revu, il repassait très 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 régulièrement sur la 5, donc Feu la 5, une chaîne de télévision qui n'existe plus aujourd'hui, et c'est un film qui passait tous les 2-3 mois et à chaque passage on le regardait et on s'en racontait les scènes le lendemain parce que ça nous faisait marrer les bagarres, les dialogues, et surtout dans ce film-là il y a des dialogues absolument, absolument fameux.
Taille. Mes ongles.
Non, tes mesures.
Extra, 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 extra large.
Voiture.
Pied plat. 49,5 large.
49,5. Ben dis donc, c'est plus des pieds, c'est des péniches.
Il y a aussi une scène de bagarre dans un bar qui est absolument inoubliable.
Hé, l'estropié.
Oh, les mains, estropié.
Mais je peux pas. Regardez, si je lève les mains, je vais me casser la gueule.
Ah, c'est marrant, ça. Montre-nous.
C'est un film qui dure 2 heures, hein, faut pas l'oublier, mais ça passe super vite, ouais. Parce que ça va à une vitesse folle, c'est un enchaînement de gags, de bagarres, de conneries qui sont absolument hilarantes, et bon, c'est très très con, hein,
mais
on n'est pas dans du grand cinéma, c'est... dans de la grande comédie, mais c'est quel kiff, et encore aujourd'hui, hein, je prends toujours le même kiff. Hein.
Ah ouais, moi aussi.
C'est génial, mais les dialogues, j'ai jamais vu en VO, mais la VF est impayable, il y a plein de trucs très 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 marrant, cartoonesque, tout ça. Mais pareil, pour moi, c'est aussi un des meilleurs, Terence Hill et Bud Spencer. En revanche, il y a un an ou deux, je l'ai montré à mes enfants, et ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu, j'avais oublié comme il y a plein de gros mots, en fait. Donc mes enfants sont quand même en bas âge, mais là, gros fail.
Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, allez vous faire foutre maintenant à 4 pas d'ici, je vous le fais savoir.
Mais ils sont marrés aussi. Moins que j'espérais, je pensais que ça allait vraiment les faire vraiment kiffer.
Ouais, oui.
Non, mais c'est vraiment des films de nos générations à nous. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué.
Ouais, je pense.
Autant des films de Funès, je pense que c'est transgénérationnel.
Ouais, ça, c'est intergénérationnel.
Mais Terence Hill et Bud Spencer, c'est vraiment de nos générations à nous, les quarantenaires, cinquantenaires, qui prennent un certain kiff à les voir. Quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais un peu déçu que la mayonnaise prenne pas. Mais bon, enfin, ils n'ont pas non plus détesté, ils ont été jusqu'au bout, etc. Mais moi, je me marre comme un bossu devant. Je trouve ça trop marrant, quoi.
Ouais. Moi, j'avais essayé de montrer les Trinitas aussi à mon fils, mais bon, ça est moyennement pris.
Même si c'est la 11e collaboration du duo, avant, on les a plus vus dans des westerns, finalement, comme tu dis, dans les Trinitas et autres. Celui-ci, c'est le premier d'une lignée, en fait, de pure comédie. Il y a eu par la suite Père et Impère,
que j'ai vu au cinéma,
que j'adore aussi.
Salut l'ami, adieu le trésor, Attention les dégâts.
Attention les dégâts. Je crois que c'est Attention les dégâts que j'ai vu au cinéma.
Même si on retient encore les westerns qui sont très, pour la plupart de très bonne qualité. Mais on a toujours une affection pour ces comédies un peu concon, mais qui fonctionnent toujours. Quoi.
Le duo marche super bien, moi je trouve. Je sais pas, l'association des deux, c'est miraculeux. Quoi. C'est vraiment Laurel et Hardy avec Terence Hill qui est toujours le plus smart des deux. Mais finalement, Bud Spencer, il est pas si bête que ça. Tout ça. C'est difficile de passer à côté. Enfin, quand on a vécu les années 70-80, gamins comme nous. Forcément, c'est des figures incontournables. Tout le monde connaît ça.
On referme les portes de notre vidéoclub sur ce film symbole des années VHS, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec un retour sur le génial Sens de la vie des non moins géniaux Monty Python, le glaçant Chromosome 3 de David Cronenberg et Maniac Cop, premier opus de la trilogie réalisée par William Lustig. En attendant, tous nos autres épisodes sont toujours disponibles sur notre site. Retour à l'écran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. À très vite.
Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma.
Pour être aimé, il faut être aimable.
Vous voulez un chocolat ?
C'était pas ma guerre !
Back in full force.
Quelle est votre devise ?
Je m'appelle Bond. James Bond.
Vous délirez totalement là.
C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
Vous êtes un mélancolique.
Mélancolique, mon cul.